Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant, l'histoire d'un tout petit insecte, la mouche blanche, Bemisia tabaci.
Oui, bonjour. Et cette mouche, elle a réalisé un exploit évolutif assez dingue.
C'est ça. Elle a intégré des gènes de bactéries dans son propre ADN. C'est une info qui nous vient d'un article de la revue Polytechnique.
Absolument. Et c'est important, pas juste pour les biologistes de l'évolution. Ça touche aussi l'agriculture parce que cette mouche, franchement, c'est un fléau.
Ah oui?
Oui, oui. L'étude principale vient de l'Académie chinoise des sciences agricoles, mais il y a une contribution suisse aussi de Ted Torlings à Neuchâtel. C'est paru dans Science Advances.
D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet génétique, qui exactement cette mouche blanche? Bemisia tabaci, c'est ça?
C'est ça! On l'appelle aussi aleurode du tabac ou du cotonnier, de la patate douce. En fait, elle est polyphage.
Polyphage. C'est-à-dire?
Elle mange un peu de tout, enfin beaucoup de plantes différentes, des centaines. Elle vient des régions tropicales, subtropicales.
Mais on la trouve ici aussi maintenant?
Oui, surtout sous serre, dans les zones tempérées. Elle s'est très bien adaptée.
Et elle fait des dégâts, j'imagine. Tu parlais de fléaux.
Ah oui, des milliards de dollars de dégâts agricoles dans le monde. Elle pique les plantes, elle suce la sève du phloème.
Le phloème, c'est bien les canaux pour les sucres?
Exactement. Donc elle affaiblit la plante. En plus, elle excrète un miel accolant qui favorise les champignons, les maladies. Et surtout, elle transmet plein de virus.
D'accord. Un vrai problème. Revenons à cette histoire de gènes. Qu'est-ce que l'étude a découvert de si spécial?
Alors, le cœur de la découverte, bien expliqué dans l'article de la revue Polytechnique, c'est que la mouche a acquis, il y a très longtemps, des dizaines de millions d'années,
oui.
Elle a acquis deux gènes qui viennent de bactéries. C'est ce qu'on appelle un transfert horizontal de gènes.
Horizontal. Entre espèces différentes, donc.
C'est ça. Du matériel génétique qui saute d'une bactérie à un insecte. C'est pas si fréquent à ce niveau-là.
Deux gènes bactériens. Et ils lui servent à quoi concrètement?
Ces gènes lui permettent de mieux gérer son azote. L'azote, c'est essentiel pour fabriquer les protéines, pour grandir, pour se reproduire.
D'accord.
Et comme la sève, c'est souvent pauvre en azote, avoir ces gènes, ça lui donne un avantage métabolique énorme. Elle optimise tout le cycle.
Attends, mais normalement, les insectes qui mangent de la sève, ils ont besoin de bactéries. Symbiotiques, non?
Oui.
Pour justement compenser ce manque d'azote.
Exactement. La plupart fonctionnent comme ça. Ils hébergent des bactéries qui font le boulot.
Mais pas elle.
Ben non. Grâce à ces deux gènes qui sont dans son génome, elle est devenue autonome pour ça. Elle gère son azote toute seule.
Ah oui, c'est vraiment intéressant ça. Elle a internalisé la fonction en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. Plus besoin de dépendre d'un symbionte pour cette tâche vitale.
Mais est-ce que ce genre de transfert d'une bactérie à un insecte, c'est si rare?
Alors, le transfert d'un seul gène, ça arrive. Ce n'est pas complètement inédit. Mais ce qui est vraiment spécial ici, et Ted Turlings le souligne bien dans l'article, c'est qu'on a deux gènes.
Deux gènes?
Oui, deux gènes différents qui viennent de bactéries et qui maintenant fonctionnent ensemble en coopération dans le génome de l'insecte. Ça, c'est qualifié de tout à fait unique.
Deux gènes qui coopèrent. Qu'est-ce que ça change par rapport à un seul? C'est plus compliqué à acquérir, non?
Oui, ça suggère un événement de transfert peut-être plus complexe ou alors une intégration très fine après le transfert. Le fait qu'ils travaillent ensemble pour une fonction précise, l'optimisation de l'azote, rend ce cas, évolutivement parlant, fascinant.
Ah, on peut imaginer que cette capacité à bien gérer l'azote, ça participe à son succès en tant que ravageur. Le fait qu'elle puisse survivre sur tant de plantes.
Très probablement, oui. Ça lui donne une flexibilité, une capacité d'adaptation énorme. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cadeau génétique qu'elle a reçu.
Ah bon? Il y en a d'autres?
Oui, la même équipe de recherche, Essessa et Turlings, avait montré en 2021 qu'elle avait aussi piqué un gène à une plante.
Carrément.
Un gène de plante.
Oui, un gène qui lui permet de neutraliser une toxine que les plantes utilisent pour se défendre.
Incroyable! Elle se sert un peu partout, cette mouche. Elle fait son marché génétique.
C'est un peu ça.
Et ses découvertes montrent bien à quel point l'évolution peut être créative, avec ses transferts horizontaux qui brouillent un peu les frontières entre les règnes du vivant, quoi.
Donc, pour résumer, si on s'en tient à ce que rapporte la revue Polytechnique, la mouche blanche est un exemple assez spectaculaire d'évolution. Elle utilise des outils génétiques empruntés à des bactéries pour devenir un super prédateur, un super ravageur de plantes.
Absolument. C'est une illustration parfaite de l'adaptation par acquisition de fonctions nouvelles.
C'est fou.
Et ça soulève une question, je trouve. Si ce genre de transfert entre bactéries et insectes, ou même plantes et insectes, peut donner des avantages aussi nets...
Oui.
quelles autres capacités incroyables issues de ce genre de mélange génétique pourraient bien se cacher dans le génome d'autres espèces? Des choses qu'on n'a pas encore découvertes et qui pourraient remettre en question notre vision classique des frontières entre les êtres vivants.